When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Chapitre 9 du roman de la momie par Théophile Gautier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 9. Poëri, dont la main était armée d'un fort bâton de palmier, se dirigea vers le fleuve en suivant une étroite chaussée élevée à travers un champ de papyrus submergés qui, feuillés à leur base, dressaient de chaque côté leur hampe rectiligne haute de 6 ou 8 coudées et terminée par un flocon de fibres, comme les lances d'une armée rangée en bataille. Retenant son souffle, posant à peine la pointe du pied sur le sol, Tahoser s'engagea après lui dans le petit chemin. Il n'y avait pas de lune cette nuit-là, et l'épaisseur des papyrus eut d'ailleurs suffi pour cacher la jeune fille, qui se tenait un peu en arrière. Il fallut après franchir un espace découvert. La fosse au Rhin laissa prendre de l'avance à Poëri, courba sa taille, se fit petite et rampa contre le sol. Un bois de mimosa se présenta ensuite, et, dissimulé par les touffes d'arbres, Tahoser put s'avancer sans prendre autant de précautions. Elle était si près de Poëri qu'elle craignait de perdre dans l'obscurité, que souvent les branches qu'il déplaçait lui fouettaient la figure, mais elle n'y faisait pas attention. Un sentiment d'ardente jalousie la poussait à la recherche du mystère qu'elle n'interprétait pas comme les servantes de la maison. Elle n'avait pas cru un instant que le jeune hébreu sortît ainsi chaque soir pour accomplir quelque rite infâme et barbare. Elle pensait qu'une femme devait être le motif de ses excursions nocturnes, et elle voulait connaître sa rivale. La bienveillance froide de Poëri lui montrait qu'il avait le cœur occupé. Autrement serait-il resté insensible à des charmes célèbres dans Thèbes et dans toute l'Égypte? Eût-il feint de ne pas comprendre un amour qui eût fait l'orgueil des Oëris, des grands prêtres, des basilico-grammates et même des princes de la race royale? Arrivé à la berge du fleuve, Poëri descendit quelques marches taillées dans l'escarpement de la rive et se courba comme s'il défaisait un lien. Tahoser, couché à plat ventre sur le sommet du talus, que dépassait seulement le haut de sa tête, vit, à son grand désespoir, que le promeneur mystérieux détachait une mince barque de papyrus étroite et longue comme un poisson, et qu'il se préparait à traverser le fleuve. Il sauta, en effet, dans la barque, repoussa le bord du pied, et prit le large en manœuvrant la rame unique placée à l'arrière de la frêle embarcation. La pauvre fille se tordait les mains de douleur. Elle allait perdre la piste du secret qu'il lui importait tant de savoir. Que faire ? Retourner sur ses pas, le cœur en proie aux soupçons et à l'incertitude, le pire des maux. Elle rassembla son courage et sa résolution fut bientôt prise. Chercher une autre barque, il n'y fallait pas penser. Elle se laissa couler le long du talus, enleva sa robe en un tour de main et la roula sur sa tête. Puis elle se glissa courageusement dans le fleuve, en ayant soin de ne pas faire rejaillir d'écume. Souple comme une couleuvre d'eau, elle allongea ses beaux bras sur le flot sombre, où tremblait élargi le reflet des étoiles, et se mit à suivre de loin la barque. Elle nageait admirablement, car, chaque jour, elle s'exerçait avec ses femmes dans la vaste piscine de son palais, et nul n'était plus habile à couper l'onde que Tahoser. Le courant, endormi en cet endroit, ne lui opposait pas beaucoup de résistance, mais, au milieu du fleuve, pour ne pas être emporté à la dérive, il lui fallut donner de vigoureux coups de pied à l'eau bouillonnante et multiplier ses brassées. Sa respiration devenait courte, haletante, et elle la retenait de peur que le jeune Hébreu ne l'entendît. Quelquefois, une vague plus haute lavait d'écume ses lèvres entr'ouvertes, trempait ses cheveux et même atteignait sa robe pliée en paquet. Heureusement pour elle, car ses forces commençaient à l'abandonner, elle se retrouva bientôt dans des eaux plus calmes. Un faisceau de joncs qui descendait le fleuve et la frôla en passant, lui causa une vive terreur. Cette masse d'un vert sombre prenait, à travers l'obscurité, l'apparence d'un dos de crocodile. Tahoser avait cru sentir la peau rugueuse du monstre, mais elle se remit de sa frayeur et se dit en continuant à nager « Qu'importe que les crocodiles me mangent, si Poëri ne m'aime pas !» Le danger était réel, surtout la nuit. Pendant le jour, le mouvement perpétuel des barques, le travail des quais, le tumulte de la ville, éloignent les crocodiles qui vont, sur des rives moins fréquentées par l'homme, se vautrer dans la vase et se réjouir au soleil. Mais l'ombre leur rend toute leur audace. Tahoser n'y avait pas pensé. La passion ne calcule pas. L'idée de ce péril lui fût-elle venue, elle l'aurait bravée, elle si timide pourtant, et qu'effrayait un papillon obstiné qui voltigeait autour d'elle, la prenant pour une fleur. Tout à coup, la barque s'arrêta, quoique la rive fût encore à quelque distance. Poëri, suspendant son travail de pagaie, parut promener ses regards autour de lui avec inquiétude. Il avait aperçu la tache blanchâtre produite sur l'eau par la robe roulée de Tahoser. Se croyant découverte, l'intrépide nageuse plongea bravement, résolue à ne remonter à la surface, dût-elle étouffer que lorsque les soupçons de Poëri seraient dissipés. « J'aurais cru que quelqu'un me suivait à la nage, » se dit Poëri en se remettant à ramer. « Mais qui se risquerait dans le Nil à cette heure? J'étais fou. J'ai pris pour une tête humaine coiffée d'un linge une touffe de lotus blanc, peut-être même un simple flocon d'écume, car je ne vois plus rien. » Lorsque Tahoser, dont les veines sifflaient dans les tempes et qui commençait à voir passer des lueurs rouges dans l'eau sombre du fleuve, revint en toute hâte dilater ses poumons par une longue gorgée d'air, la barque de papyrus avait repris son allure confiante et Poëri manœuvrait l'aviron avec le flegme imperturbable des personnages allégoriques qui conduisent la barille de Mahut sur les bas-reliefs et les peintures des temples. La rive n'était plus qu'à quelques brassées. L'ombre prodigieuse des pylônes et des murs énormes du palais du Nord, qui ébauchait ses entassements opaques, surmontés par les pyramidions de 6 obélisques, à travers le bleu violâtre de la nuit, s'étalait immense et formidable sur le fleuve et protégeait Tahoser, qui pouvait nager sans crainte d'être aperçu. Poëri aborda un peu au-dessous du palais en descendant le Nil, et il attacha sa barque à un pieu, de façon à la retrouver pour le retour. Puis il prit son bâton de palmier et monta la rampe du quai d'un pas alerte. La pauvre Tahoser, presque à bout de force, suspendit ses mains crispées à la première marche de l'escalier et sortit avec peine du fleuve ses membres ruisselants que le contact de l'air alourdit en leur faisant sentir subitement la fatigue. Mais le plus difficile de sa tâche était accompli. Elle gravit les marches, une main sur son cœur, qui battait violemment, l'autre sur sa tête pour maintenir sa robe roulée et trempée. Après avoir vu la direction que prenait Poëri, elle s'assit au haut de la rampe, déplia sa tunique et la revêtit. Le contact de l'étoffe mouillée lui causa un léger frisson. La nuit pourtant était douce et la brise du sud soufflait tiède, mais la courbature l'enfiévrait et ses petites dents se heurtèrent. Elle fit un appel à son énergie et, rasant les murailles en talus des gigantesques édifices, elle parvint à ne pas perdre de vue le jeune Hébreu qui tourna l'angle de l'immense enceinte de briques du palais et s'enfonça à travers les rues de Thèbes. Au bout d'un quart d'heure de marche, les palais, les temples, les riches maisons disparurent pour faire place à des habitations plus humbles. Au granit, au calcaire, au grès, succédaient les briques crues, le limon pétri avec de la paille. Les formes architecturales s'effaçaient. Des cahutes s'arrondissaient comme des ampoules ou des verrues sur des terrains déserts, à travers de vagues cultures, empruntant à la nuit des configurations monstrueuses. Des pièces de bois, des briques moulées, rangées en tas, encombraient le chemin. Du silence se dégageaient des bruits étranges, inquiétants. Une chouette coupait l'air de son aile muette. Des chiens maigres, levant leurs longs museaux pointus, suivaient d'un aboiement plaintif le vol inégal d'une chauve-souris. Des scarabées et des reptiles peureux se sauvaient en faisant bruire l'herbe sèche. Est-ce que Harfré aurait dit vrai? Pensait Tahoser, impressionné par l'aspect sinistre du lieu. Poëri viendrait-il là sacrifier un enfant à ces dieux barbares qui aiment le sang et la souffrance? Jamais endroit ne fut plus propice à des rites cruels. Cependant, profitant des angles d'ombre, des bouts de murs, des touffes de végétation, des inégalités de terrain, elle se maintenait toujours à une distance égale de Poëri. Quand je devrais assister, témoin invisible, à quelque scène effroyable comme un cauchemar, entendre les cris de la victime, voir le sacrificateur, les mains rouges de sang, retirer du petit corps le cœur fumant, j'irai jusqu'au bout, se dit Tahoser, en regardant le jeune Hébreu pénétrer dans une hutte de terre dont les crevasses laissaient filtrer quelques rayons de lumière jaune. Quand Poëri fut entré, la fille de Pétamounoph s'approcha, sans qu'un caillou eût crié sous son pas de fantôme, sans qu'un chien eût signalé sa présence en donnant de la voix. Elle fit le tour de la cahute, comprimant son cœur, retenant son haleine, et découvrit, en la voyant luire sur le fond sombre de la muraille d'argile, une fente assez large pour laisser pénétrer le regard à l'intérieur. Une petite lampe éclairait la chambre, moins pauvre qu'on eût pu le penser d'après l'apparence du taudis. Les parois lissées avaient un poli de stuc. Sur des socles de bois peints de couleurs variées étaient posés des vases d'or et d'argent. Des bijoux scintillaient dans des coffres entr'ouverts. Des plats de métal brillant rayonnaient sur le mur et un bouquet de fleurs rares s'épanouissait dans un pot de terre émaillé au milieu d'une petite table. Mais ce n'étaient pas ces détails d'ameublement qui intéressaient Tahoser, quoique le contraste de ce luxe caché avec la misère extérieure de l'habitation lui eût d'abord causé quelque surprise. Son attention était invinciblement attirée par un autre objet. Sur une estrade tapissée de nattes se tenait une femme de race inconnue et merveilleusement belle. Elle était blanche plus qu'aucune des filles d'Égypte, blanche comme le lait, comme le lys, blanche comme les brebis qui montent du lavoir. Ses sourcils s'étendaient comme des arcs d'ébène, et leurs pointes se rencontraient à la racine d'un nez mince, aquilin, aux narines colorées de tons roses comme le dedans des coquillages. Ses yeux ressemblaient à des yeux de tourterelle, vifs et langoureux à la fois. Ses lèvres étaient deux bandelettes de pourpre, et en se dénouant montraient des éclairs de perles. Ses cheveux se suspendaient, de chaque côté de ses joues de grenade, en touffes noires et lustrées comme deux grappes de raisin mûr. Des pans de loques frissonnaient à ses oreilles, et des colliers d'or à plaquettes incrustées d'argent scintillaient autour de son col rond et poli comme une colonne d'albâtre. Son vêtement était singulier. Il consistait en une large tunique brodée de zébrures et de dessins symétriques de diverses couleurs, descendant les épaules jusqu'à mi-jambe et laissant les bras libres et nus. Le jeune Hébreu s'assit près d'elle, sur la natte, et lui tint des discours dont Tahoser ne pouvait comprendre la lettre, mais dont elle devinait trop bien le sens pour son malheur. Car Poëri et Ra'hel s'exprimaient dans la langue de la patrie, si douce à l'exilé et au captif. L'espérance est dure à mourir au cœur amoureux. « Peut-être est-ce sa sœur ?» se dit Tahoser, et vient-il la voir secrètement, ne voulant pas qu'on sache qu'il appartient à cette race réduite en servitude. Puis elle appliquait son visage à la crevasse, écoutant avec une douloureuse intensité d'attention ces mots harmonieux et cadencés dont chaque syllabe contenait un secret qu'elle eût donné sa vie pour savoir, et qui bruissait vague, fugitif, dénué de signification à ses oreilles, comme le vent dans les feuilles et l'eau contre la rive. « Elle est bien belle, pour une sœur, » murmurait-elle, en dévorant d'un œil jaloux cette figure étrange et charmante, au teint pâle, aux lèvres rouges, que rehaussaient des parures de formes exotiques et dont la beauté avait quelque chose de mystérieusement fatal. « Oh, Ra'hel, ma bien-aimée Ra'hel !» disait souvent Poëri. Tahoser se souvint de lui avoir entendu murmurer ce mot pendant qu'elle éventait et berçait son sommeil. Il y pensait même en rêve. Ra'hel, c'est son nom sans doute. Et la pauvre enfant sentit à la poitrine une souffrance aiguë, comme si tous les uræus des entablements, toutes les vipères royales des couronnes pharaoniques, lui eussent planté leurs crochets venimeux au cœur. Ra'hel inclina sa tête sur l'épaule de Poëri, comme une fleur trop chargée de parfums et d'amour. Les lèvres du jeune homme effleuraient les cheveux de la belle juive, qui se renversait lentement, offrant son front moite et ses yeux demi-fermés à cette caresse suppliante et timide. Leurs mains qui se cherchaient s'étaient unies et se pressaient nerveusement. Oh, que ne l'ai-je surpris à quelque cérémonie impie et monstrueuse, égorgeant de ses mains une victime humaine, buvant le sang dans une coupe de terre noire, s'en frottant la face. Il me semble que cela m'eût fait moins souffrir que l'aspect de cette belle femme qu'il embrasse si timidement, balbutia Tahoser d'une voix faible, en s'affaissant sur la terre dans l'ombre de la cahute. Deux fois elle essaya de se relever, mais elle retomba à genoux. Un nuage couvrit ses yeux. Ses membres fléchirent, elle roula, évanouie. Cependant Poëri sortait de la cabane et donnait à Ra'hel un dernier baiser. Fin du chapitre 9, enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en juin 2011. Chapitre 10 du roman de la momie par Théophile Gautier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 10. Pharaon, inquiet et furieux de la disparition de Tahoser, avait cédé à ce besoin de changer de place qui agite les cœurs tourmentés d'une passion inassouvie. Au grand chagrin d'Amensé, de Handrésché et de Touéa, ses favorites, qui s'était efforcé de le retenir au pavillon d'été par toutes les ressources de la coquetterie féminine, il habitait le palais du Nord, sur l'autre rive du Nil. Sa préoccupation farouche s'irritait de la présence et du babil de ses femmes. Tout ce qui n'était pas Tahoser lui déplaisait. Il trouvait laide maintenant ces beautés qui lui paraissaient si charmantes naguère. Leur corps jeune, svelte, gracieux, aux poses pleines de volupté, leurs longs yeux avivés d'antimoine où brillait le désir, leurs bouches pourprées aux dents blanches et aux sourires languissants, tout en elles, jusqu'aux parfums suaves qui émanaient de leur peau fraîche comme d'un bouquet de fleurs ou d'une boîte d'aromates, lui était devenu odieux, intolérable. Il semblait leur en vouloir de les avoir aimés et ne plus comprendre comment ils s'étaient épris de charmes si vulgaires. Lorsque Touéa lui posait sur la poitrine les doigts effilés et roses de sa petite main tremblante d'émotion, comme pour faire renaître le souvenir d'une familiarité ancienne, que Handrésché poussait devant lui l'échiquier supporté par deux lions adossés, afin d'engager une partie, ou qu'Amensé lui présentait une fleur de lotus avec une grâce respectueuse et suppliante, il se retenait à peine de les frapper de son sceptre, et ses yeux d'épervier lançaient de tels éclairs de dédain que les pauvres femmes qui s'étaient risquées à ses hardiesses se retiraient interdites, les paupières moites de larmes, et s'appuyaient silencieusement à la muraille peinte, tâchant de se confondre par leur immobilité avec les figures des fresques. Pour éviter ces scènes de pleurs et de violence, il s'était retiré au palais de Thèbes, seul, taciturne et farouche. Et là, au lieu de rester assis sur son trône, dans l'attitude solennelle des dieux et des rois qui, pouvant tout, ne remuent pas et ne font pas de gestes, il se promenait fiévreusement à travers les immenses salles. C'était un spectacle étrange que de voir ce pharaon à la haute stature, au maintien imposant, formidable comme les colosses de granit, ces images, faire retentir les larges dalles sous le patin recourbé de sa chaussure. À son passage, les gardes terrifiés semblaient se figer en statues. Leur souffle s'arrêtait, et l'on ne voyait même plus trembler la double plume d'autruche de leur coiffure. Lorsqu'il était loin, à peine osait-il se dire « Qu'a donc aujourd'hui le pharaon ? Il serait rentré vaincu de son expédition qu'il ne serait pas plus morose et plus sombre. » Si, au lieu d'avoir remporté 10 victoires, tué 20 000 ennemis, ramené 2 000 vierges choisies parmi les plus belles, rapporté 100 charges de poudre d'or, 1 000 charges de bois d'ébène et de dents d'éléphant, sans compter les productions rares et les animaux inconnus, Pharaon eût vu son armée taillée en pièces, ses chars de guerre renversés et brisés, et se fût sauvé seul de la déroute sous une nuée de flèches, poudreux, sanglant, prenant les rênes des mains de son cocher mort à côté de lui, il n'eût pas eu, certes, un visage plus morne et plus désespéré. Après tout, la terre d'Égypte est fertile en soldats. D'innombrables chevaux hennissent et fouillent le sol du pied dans les écuries du palais, et les ouvriers ont bientôt courbé le bois, fondu le cuivre, aiguisé les reins. La fortune des combats est changeante, un désastre se répare. Mais avoir souhaité une chose qui ne s'était pas accomplie sur le champ, rencontrer un obstacle entre sa volonté et la réalisation de cette volonté, lancer comme une javeline un désir qui n'avait pas atteint le but, voilà ce qui étonnait ce pharaon dans les zones supérieures de sa toute-puissance. Un instant, il eut l'idée qu'il n'était qu'un homme. Il errait donc par les vastes cours, suivant les dromos de colonnes géantes, passant sous les pylônes démesurés, entre les obélisques élancés d'un seul jet et les colosses qui le regardaient de leurs grands yeux effarés. Il parcourait la salle hypostyle et se perdait à travers la forêt granitique de ses 162 colonnes, hautes et fortes comme des tours. Les figures de dieux, de rois et d'êtres symboliques peintes sur les murailles semblaient fixer sur lui l'œil inscrit de face en lignes noires sur leur masque de profil, les uréus se tordre et gonfler leur gorge, les divinités ibiocéphales allonger leur col, les globes dégager des corniches leurs ailes de pierre et les faire palpiter. Une vie étrange et fantastique animait ces représentations bizarres, peuplant d'apparence vivante la solitude de la salle énorme, grande à elle seule comme un palais tout entier. Ces divinités, ces ancêtres, ces monstres chimériques, dans leur immobilité éternelle, étaient surpris de voir le pharaon, ordinairement aussi calme qu'eux-mêmes, aller venir comme si ses membres fussent de chair et non de porphyre ou de basalte. Las de tourner dans ce monstrueux bois de colonnes soutenant un ciel de granit, comme un lion qui cherche la piste de sa proie et flaire de son mufle froncé le sable mobile du désert, Pharaon monta sur une terrasse du palais, s'allongea sur un lit bas et fit appeler Timopte. Timopte parut et s'avança du haut de l'escalier jusqu'au pharaon en se prosternant à chaque pas. Il redoutait la colère du maître dont un instant il avait espéré la faveur. L'habileté déployée à découvrir la demeure de Tahoser suffirait-elle pour faire excuser le crime d'avoir perdu la trace de cette belle fille? Relevant un genou et laissant l'autre ployer, Timopte étendit ses bras vers le roi avec un geste suppliant. « Ô roi, ne me fais pas mourir ni battre outre mesure. La belle Tahoser, fille de Pétamounoph, sur laquelle ton désir a daigné descendre comme un épervier qui fond sur une colombe, se retrouvera sans doute, et quand, de retour à sa demeure, elle verra tes magnifiques présents, son cœur sera touché, et, d'elle-même, elle viendra, parmi les femmes qui habitent ton gynécée, prendre la place que tu lui assigneras. »
« As-tu interrogé ses servantes et ses esclaves ? » dit le pharaon. « Le bâton délie les langues les plus rebelles, et la souffrance fait dire ce qu'on voudrait cacher. Nofré et Souhem, sa suivante favorite et son plus vieux serviteur, m'ont dit qu'ils avaient remarqué que les verrous de la porte du jardin étaient tirés, et que probablement leur maîtresse était sortie par là. La porte donne sur le fleuve, et l'eau ne garde pas le sillage des barques. Qu'ont dit les bateliers du Nil ? Ils n'avaient rien vu. Un seul a dit qu'une femme pauvrement vêtue avait passé le fleuve aux premières lueurs du jour. Mais ce ne pouvait être la belle et riche Tahoser, dont tu as remarqué toi-même la figure,
et qui marche comme une reine sous des vêtements splendides. » Le raisonnement de Timopht ne parut pas convaincre Pharaon. Il appuya son menton dans sa main et réfléchit quelques minutes. Le pauvre Timopht attendait en silence, craignant quelque explosion de fureur. Les lèvres du roi remuaient comme s'il se fût parlé à lui-même. Cet humble habit était un déguisement, oui, c'est cela. Ainsi travestie, elle est passée de l'autre côté du fleuve. Ce Timopht est un imbécile, sans la moindre pénétration. J'ai bien envie de le faire jeter au crocodile ou rouer de coups. Mais pour quel motif? Une vierge de haute naissance, fille d'un grand prêtre, s'échapper ainsi de son palais, seule, sans prévenir personne de son dessein? Il y a peut-être quelque amour au fond de ce mystère. À cette idée, la face du pharaon s'empourpra comme à un reflet d'incendie. Tout le sang lui était monté du cœur au visage. À la rougeur succéda une pâleur affreuse. Ses sourcils se tordirent comme les vipères des diadèmes, sa bouche se contracta, ses dents grincèrent, et sa physionomie devint si terrible que Timopht, épouvanté, se laissa tomber le nez sur les dalles, comme tombe un homme mort. Mais le pharaon se calma. Sa figure reprit son aspect majestueux, ennuyé et placide. Et, voyant que Timopht ne se relevait pas, il le poussa dédaigneusement du pied. Quand Timopht, qui se regardait déjà comme étendu sur le lit funèbre à pied de chacal, au quartier des Memnonia, le flanc ouvert, le ventre vidé et prêt à prendre le bain de saumure, se redressa, il n'osa pas lever les yeux vers le roi et resta affaissé sur ses talons, en proie à l'angoisse la plus poignante. « Allons, Timopht, dit sa majesté, lève-toi, cours, dépêche des émissaires de tous côtés, fais fouiller les temples, les palais, les maisons, les villas, les jardins, jusqu'aux plus humbles cahutes, et retrouve Tahoser. Envoie des chars sur toutes les routes, fais sillonner le Nil en tous sens par des barques. Va toi-même et demande à ceux que tu rencontreras s'ils n'ont pas vu une femme de telle sorte. Viole les tombeaux si elle s'est réfugiée dans l'asile de la mort, au fond de quelque syringe ou de quelque hypogée. Cherche-la comme Isis a cherché son mari Osiris déchiré par Typhon, et, morte ou vivante, ramène-la, ou, par l'uréus de mon pchent, par le bouton de lotus de mon sceptre, tu périras dans d'affreux supplices. » Timopht s'élança avec la rapidité de l'ibex pour exécuter les ordres du pharaon, qui, rasséréné, prit une de ces poses de grandeur tranquille que les sculpteurs aiment à donner aux colosses assis à la porte des temples et des palais, et, calme comme il convient à ceux dont les sandales estampées de captifs liés par les coudes reposent sur la tête des peuples, il attendit. Un tonnerre sourd résonna autour du palais, et, si le ciel n'eût été d'un bleu de lapis-lazuli immuable, on eût pu croire à un orage. C'étaient les bruits des chars lancés au galop dans toutes les directions, et dont les roues tourbillonnantes retentissaient sur le sol. Bientôt le pharaon put apercevoir du haut de sa terrasse les barques coupant l'eau du fleuve sous l'effort des rameurs, et les émissaires se répandre sur l'autre rive à travers la campagne. La chaîne libyque, avec ses lumières roses et ses ombres d'un bleu de saphir, fermait l'horizon et servait de fond aux gigantesques constructions des Ramsès, d'Aménope et de Ménepta. Les pylônes aux angles en talus, les murailles aux corniches évasées, les colosses aux mains posées sur les genoux, se dessinaient, dorés par un rayon de soleil, sans que l'éloignement pût leur ôter de leur grandeur. Mais ce n'étaient pas ces orgueilleux édifices que regardait Pharaon. Parmi les bouquets de palmiers et les champs cultivés, des maisons, des kiosques coloriés s'élevaient çà et là, tachetant la teinte vivace de la végétation. Sous un de ces toits, sous une de ces terrasses, Tahoser se cachait sans doute, et, par une opération magique, il eût voulu les soulever ou les rendre transparents. Les heures succédèrent aux heures. Déjà le soleil avait disparu derrière les montagnes, lançant ses derniers feux à Thèbes, et les messagers ne revenaient pas. Pharaon gardait toujours son attitude immobile. La nuit s'étendit sur la ville, calme, fraîche et bleue. Les étoiles se mirent à scintiller et à faire trembler leurs longs cils d'or dans l'azur profond. et sur le coin de la terrasse, le pharaon silencieux, impassible, découpait ses noirs contours comme une statue de basalte scellée à l'entablement. Plusieurs fois les oiseaux nocturnes voltigèrent autour de sa tête pour s'y poser. Mais, effrayés par sa respiration lente et profonde, ils s'enfuyaient en battant des ailes. De cette hauteur, le roi dominait sa ville déployée à ses pieds. Du sein de l'ombre bleuâtre jaillissaient les obélisques aux pyramidions aigus, les pylônes, portes gigantesques traversées de rayons, les hautes corniches, les colosses émergeant jusqu'aux épaules du tumulte des constructions, les propylées, les colonnes épanouissant leurs chapiteaux comme d'énormes fleurs de granit, les angles des temples et des palais révélés par une touche argentée de lumière. Les viviers sacrés s'étalaient en miroitant comme du métal poli. Les sphinx et les cryosphinx alignés en dromos allongeaient leurs pattes et vasaient leurs croupes. Et les toits plats se succédaient à l'infini, blanchissant sous la lune en masses coupées çà et là de tranches profondes par les places et les rues. Des points rouges piquaient cette obscurité bleue, comme si les étoiles eussent laissé tomber des étincelles sur la terre. C'étaient les lampes qui veillaient encore dans la ville endormie. Plus loin, entre les édifices moins serrés, de vagues touffes de palmiers balançaient leurs éventails de feuilles. Au-delà, les contours et les formes se perdaient dans la vaporeuse immensité, car l'œil de l'aigle même n'aurait pu atteindre aux limites de Thèbes, et de l'autre côté, le vieil Opimou descendait majestueusement vers la mer. Planant par l'œil et la pensée sur cette ville démesurée dont il était le maître absolu, Pharaon réfléchissait tristement aux bornes du pouvoir humain, et son désir, comme un vautour affamé, lui rongeait le cœur. Il se disait « Toutes ces maisons renferment des êtres dont mon aspect fait courber le front dans la poussière et pour qui ma volonté est un ordre des dieux. Lorsque je passe sur mon char d'or ou dans ma litière portée par des oëris, les vierges sentent leur sein palpiter en me suivant d'un long regard timide. Les prêtres m'encensent avec la fumée des amchirs. Le peuple balance des palmes ou répand des fleurs. Le sifflement d'une de mes flèches fait trembler les nations, et les murs des pylônes, immenses comme des montagnes taillées à pic, suffisent à peine pour inscrire mes victoires. Les carrières s'épuisent à fournir du granit pour mes images colossales. Une fois, dans ma satiété superbe, je forme un souhait, et ce souhait je ne peux l'accomplir. Timopte ne reparaît pas. Il n'aura rien trouvé sans doute. Oh, Tahoser, Tahoser, que de bonheur tu me dois pour cette attente !» Cependant les émissaires, Timopte en tête, visitaient les maisons, battaient les routes, s'informant de la fille du prêtre, donnant son signalement aux voyageurs qu'ils rencontraient. Mais personne ne pouvait leur répondre. Un premier messager parut sur la terrasse, annonçant au pharaon que Tahoser ne se retrouvait pas. Le pharaon étendit son sceptre. Le messager tomba mort, malgré la dureté proverbiale du crâne des Égyptiens. Un second se présenta. Il heurta du pied le corps de son camarade, allongé sur la dalle. Un tremblement le prit, car il vit que le pharaon était en colère. « Et Tahoser ?» dit le pharaon, sans changer de posture. « Ô majesté, sa trace est perdue !» répondit le malheureux, agenouillé dans l'ombre, devant cette ombre noire qui ressemblait plutôt à une statue osirienne qu'à un roi vivant. Le bras de granit se détacha du torse immobile, et le sceptre de métal descendit comme un carreau de foudre. Le second messager roula à côté du premier. Un troisième eut le même sort. De maison en maison, Timopte arriva au pavillon de Poëri, qui, rentré de son excursion nocturne, s'était étonné le matin de ne pas voir la fausse Hora. Afré et les servantes qui la veille avaient soupé avec elle ne savaient pas ce qu'elle pouvait être devenue. Sa chambre visitée était vide. On l'avait cherchée vainement dans les jardins, les celliers, les greniers et les lavoirs. Aux questions de Timopte, Poëri répondit qu'en effet une jeune fille s'était présentée à sa porte avec l'attitude suppliante du malheur, implorant à genoux l'hospitalité, qu'il l'avait accueillie favorablement, lui offrant le couvert et la nourriture, mais qu'elle s'en était allée d'une façon mystérieuse et pour une cause qu'il ne pouvait soupçonner. Quel chemin avait-elle pris? Il l'ignorait. Sans doute, un peu reposée, elle avait continué sa route vers un but inconnu. Elle était belle, triste, couverte d'une simple étoffe, et semblait pauvre. Le nom d'Hora qu'elle s'était donné, déguisait-il le nom de Tahoser? Il laissait la sagacité de Timopht décider cette question. Muni de ces renseignements, Timopht revint au palais et, se tenant hors de la portée du sceptre du pharaon, il lui raconta ce qu'il avait appris. « Qu'est-elle allée faire chez Poëri ? » se dit le pharaon. « Si vraiment Hora cache Tahoser, elle aime Poëri. Non, car elle ne se serait pas enfuie de la sorte après avoir été reçue sous son toit. Ah ! Je la retrouverai, dussé-je bouleverser l'Égypte des cataractes au delta. »
Fin du chapitre 10, enregistré par Nadine Kurt-Boulet, à Copenhague, en juin 2011.
Chapitre 11 du roman de la momie par Théophile Gautier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 11. Raël, qui du seuil de la cabane regardait Poëri s'éloigner, crut entendre un faible soupir. Elle écouta. Quelques chiens aboyaient à la lune, la chouette poussait son cri funèbre, et les crocodiles vagissaient entre les roseaux du fleuve, imitant le cri d'un enfant en détresse. La jeune Israélite allait rentrer, lorsqu'un gémissement plus distinct, qui ne pouvait être attribué aux vagues plaintes de la nuit, et sortait à coup sûr d'une poitrine humaine, frappa une seconde fois son oreille. Elle s'approcha avec précaution, redoutant quelque embûche, de l'endroit d'où venait le son, et près du mur de la cabane, elle aperçut dans l'ombre bleuâtre et transparente comme la forme d'un corps affaissé à terre. La draperie mouillée moulait les formes de la fausse Hora et trahissait son sexe par de pures rondeurs. Raël, voyant qu'elle n'avait affaire qu'à une femme évanouie, perdit toute crainte et s'agenouilla près d'elle, interrogeant le souffle de sa bouche et le battement de son cœur. L'un expirait sur des lèvres pâles, l'autre soulevait à peine une gorge froide. Sentant l'eau qui trempait la robe de l'inconnu, Raël crut d'abord que c'était du sang et s'imagina avoir devant elle la victime d'un meurtre. Et pour lui porter un secours plus efficace, elle appela Tamar, sa servante, et à elles deux, elles portèrent Tahoser dans la cabane. Les deux femmes l'étendirent sur le lit de repos. Tamar tint la lampe élevée pendant que Raël, penchée sur la jeune fille, cherchait sa blessure. Mais aucune raie rouge ne tranchait sur la blancheur morte de Tahoser, et sa robe ne présentait pas de taches pourprées. Elles lui enlevèrent son vêtement humide et jetèrent sur elle une étoffe de laine rayée dont la douce chaleur eut bientôt fait reprendre son cours à la vie suspendue. Tahoser ouvrit lentement les yeux et promena autour d'elle son regard effaré comme une gazelle prise. Il lui fallut quelques minutes pour renouer le fil rompu de ses idées. Elle ne pouvait comprendre encore comment elle se trouvait dans cette chambre, sur ce lit où, tout à l'heure, elle avait vu Poëri et la jeune Israélite, assis l'un près de l'autre et les mains enlacées, se parlant d'amour, tandis qu'elle, haletante et perdue, regardait à travers la fissure de la muraille. Mais bientôt la mémoire lui revint, et avec elle le sentiment de sa situation. La lumière donnait en plein sur la figure de Raël, et Tahoser l'étudiait en silence, malheureuse de la trouver si régulièrement belle. En vain, avec toute l'âpreté de la jalousie féminine, elle y chercha un défaut. Elle se sentit non pas vaincue, mais égalée. Raël était l'idéal israélite, comme Tahoser était l'idéal égyptien. Chose dure pour un cœur aimant, elle fut forcée d'admettre la passion de Poëri comme juste et bien placée. Ses yeux aux cils noirs recourbés, ce nez d'une coupe si noble, cette bouche rouge au sourire éblouissant, cet ovale allongé avec tant d'élégance, ses bras forts près des épaules et terminés par des mains enfantines, ce col rond et gras qui se tournait en formant des plis plus beaux que des colliers de pierres précieuses, tout cela, rehaussé d'une parure exotique et bizarre, devait immanquablement plaire. « J'ai commis une grande faute, » se disait Tahoser, « quand je me suis présentée à Poëri sous l'humble aspect d'une suppliante, me fiant à mes charmes trop vantés par des flatteurs. Insensé, j'ai fait comme un soldat qui s'en irait à la guerre sans cuirasse et sans harpée. Si j'avais paru armée de mon luxe, couverte de bijoux et d'émaux, debout sur mon char d'or, suivie de mes nombreux esclaves, j'aurais peut-être intéressé sa vanité, sinon son cœur.
« Comment te trouves-tu maintenant ? » dit Raël en langue égyptienne à Tahoser, car à la coupe du visage et aux cheveux nattés en cordelette, elle avait reconnu que la jeune fille n'appartenait pas à la race israélite. Le son de cette voix était compatissant et doux, et l'accent étranger lui donnait une grâce de plus. Tahoser en fut touchée malgré elle et répondit « Je vais un peu mieux, tes bons soins m'auront bientôt guéri. » « Ne te fatigue pas à parler, » répondit l'Israélite en posant sa main sur la bouche de Tahoser. « Tâche de dormir pour reprendre des forces. Tamar et moi nous veillerons sur ton sommeil. » Les émotions, la traversée du Nil, la longue course à travers les quartiers perdus de Thèbes avaient épuisé la fille de Pétamounoph. Son corps délicat était brisé et bientôt ses longs cils s'abaissèrent, formant un demi-cercle noir sur ses joues que coloraient les rougeurs de la fièvre. Le sommeil vint, mais agité, inquiet, traversé de songes bizarres, hanté d'hallucinations menaçantes. Des soubresauts nerveux faisaient tressaillir la dormeuse, et des paroles sans suite, répliquant au dialogue intérieur du rêve, balbutiaient sur ses lèvres entrouvertes. Assise au chevet du lit, Raël suivait les mouvements de physionomie de Tahoser, s'inquiétant lorsqu'elle voyait les traits de la jeune malade se contracter et prendre une expression douloureuse, se rassérénant quand le calme lui revenait. Tamar, accroupie en face de sa maîtresse, observait aussi la fille du prêtre, mais sa figure exprimait moins de bienveillance. Des instincts vulgaires se lisaient dans les rides de son front bas, pressés par la large bandelette de la coiffure israélite. Ses yeux, éclatants encore malgré l'âge, pétillaient de curiosité interrogative dans leurs orbites de rides brunes. Son nez osseux, luisant et recourbé comme le bec d'un gypaète, semblait subodorer des secrets, et ses lèvres, remuées silencieusement, avaient l'air de préparer des questions. Cet inconnu ramassé à la porte de la cabane l'intriguait vivement. D'où venait-elle? Comment se trouvait-elle là? Dans quel but? Qui pouvait-elle être? Telles étaient les demandes que se posait Tamar et auxquelles, à son grand regret, elle n'imaginait pas de réponse satisfaisante. Il faut dire aussi que Tamar, comme toutes les vieilles femmes, avait une prévention contre la beauté, et sous ce rapport, Tahoser lui déplaisait. La fidèle servante pardonnait à sa maîtresse seulement d'être jolie, et cette beauté, elle la considérait comme sienne. Elle en était fière et jalouse. Voyant que Raël gardait le silence, la vieille se leva, vint s'asseoir près d'elle, et faisant clignoter ses yeux, dont la paupière bistrée s'abaissait et s'élevait comme une aile de chauve-souris, elle lui dit à voix basse, en langue hébraïque, « Maîtresse, je n'augure rien de bon de cette femme. » « Et pourquoi, Tamar ?» répondit Raël sur le même ton et dans le même idiome. « Il est singulier, » reprit la défiante Tamar, « qu'elle se soit évanouie là, et non ailleurs. » « Elle s'est affaissée à l'endroit où le mal l'a prise. » La vieille hocha la tête d'un air de doute. « Croirais-tu, » dit la bien-aimée de Poëri, « que son évanouissement n'était pas réel ? Le parachiste eût pu lui inciser le flanc de sa pierre tranchante, tellement elle ressemblait à un cadavre. Ce regard éteint, ses lèvres pâles, ses joues décolorées, ses membres inertes, cette peau froide comme celle d'une morte, tout cela ne se contrefait pas. « Non, sans doute, » reprit Tamar, « quoiqu'il y ait des femmes assez habiles pour feindre tous ces symptômes dans un intérêt quelconque, de manière à tromper les plus clairvoyants. Je pense que cette jeune fille avait en effet perdu connaissance. Alors sur quoi portent tes soupçons ? Comment se trouvait-elle là, au milieu de la nuit, dans ce quartier lointain, habité seulement par les pauvres captifs de notre tribu, que le méchant pharaon emploie à faire des briques, sans vouloir leur donner la paille pour cuire l'argile moulée? Quel motif amenait cette égyptienne autour de nos misérables cabanes?
Pourquoi son vêtement était-il trempé comme si elle sortait d'une piscine ou d'un fleuve ?
« Je l'ignore comme toi, » répondit Raël.
« Si c'était une espionne de nos maîtres, » dit la vieille, dont les yeux fauves s'allumèrent d'un éclair de haine. « De grandes choses se préparent. Qui sait si l'éveil n'a pas été donné ?»«
Comment cette jeune fille malade pourrait-elle nous nuire ? Elle est entre nos mains, faible, isolée et gisante. Nous pouvons d'ailleurs, à la moindre apparence suspecte, la retenir prisonnière jusqu'au jour de la délivrance. »
« En tout cas, il faut s'en défier. Regarde comme ses mains sont délicates et douces. »
Et la vieille Tamar souleva un des bras de Tahoser endormi.
« En quoi la finesse de sa peau peut-elle nous mettre en danger ?»«
Oh, jeunesse imprudente, » dit Tamar. « Oh, jeunesse folle qui ne sait rien voir et qui marche dans la vie pleine de confiance, sans croire aux embûches, à la ronce cachée sous l'herbe, au charbon couvert de cendres, et qui caresserait volontiers la vipère, prétendant que ce n'est qu'une couleuvre. Comprends donc, Raël, et dessille tes yeux. Cette femme n'appartient pas à la classe dont elle semble faire partie. Son pouce ne s'est pas aplati sur le fil du fuseau, et cette petite main, adoucie par les pâtes et les aromates, n'a jamais travaillé. Cette misère est un déguisement. »
Les paroles de Tamar parurent faire impression sur Raël. Elle examina Tahoser avec plus d'attention. La lampe versait sur elle ses rayons tremblotants, et les formes pures de la fille du prêtre se dessinaient à la jaune clarté dans l'abandon du sommeil. Le bras que Tamar avait soulevé reposait encore sur le manteau de laine rayée, rendu plus blanc par le contraste de l'étoffe sombre. Au poignet s'arrondissait le bracelet en bois de santal, parure grossière de la coquetterie pauvre, mais, si l'ornement était rude et mal ciselé, la chair, en effet, semblait avoir été pétrie dans le bain parfumé de la richesse. Raël vit alors combien Tahoser était belle. Mais cette découverte ne fit naître aucun mauvais sentiment dans son cœur. Cette beauté l'attendrit au lieu de l'irriter comme Tamar. Elle ne put croire que cette perfection cachât une âme abjecte et perfide, et en cela sa jeune candeur jugeait mieux que l'antique expérience de sa suivante. Le jour parut enfin, et la fièvre de Tahoser s'accrut. Elle eut quelques instants de délire, suivis de longues somnolences.
« Si elle allait mourir ici, disait Tamar, on nous accuserait de l'avoir tuée. »«
Elle ne mourra pas, répondait Raël en approchant des lèvres de la jeune malade que la soif brûlait une coupe d'eau pure.
« J'irai de nuit jeter le corps au Nil, continuait l'obstinée Tamar, et les crocodiles se chargeraient de le faire disparaître. »
La journée se passa. La nuit vint, et, à l'heure accoutumée, Poëri, ayant fait le signal convenu, parut comme la veille sur le seuil de la cabane. Raël vint au-devant de lui, le doigt sur la bouche, lui faisant signe de garder le silence et de baisser la voix, car Tahoser dormait. Poëri, que Raël prit par la main pour le conduire au lit où reposait Tahoser, reconnut aussitôt la fausse aura, dont la disparition le préoccupait surtout depuis la visite de Timopht, qui la cherchait au nom de son maître. Un vif étonnement se peignit sur ses traits lorsqu'il se releva, après s'être penché sur le lit pour bien s'assurer que là gisait réellement la jeune fille qu'il avait accueillie, car il ne pouvait concevoir comment elle se trouvait en cet endroit. Cette surprise alla au cœur de Raël. Elle se plaça devant Poëri pour lire de plus près la vérité dans ses yeux, lui mit les mains sur les épaules, et, le pénétrant du regard, lui dit d'une voix sèche et brève, contrastant avec sa parole douce d'ordinaire comme un roucoulement de tourterelle, « Tu la connais donc ?» La figure de Tamar s'était contractée en une grimace de satisfaction. Elle était fière de sa perspicacité et presque contente de voir ses soupçons à l'endroit de l'étrangère en partie réalisés. « Oui, » répondit simplement Poëri. Les yeux de charbon de la servante pétillèrent de curiosité maligne. La figure de Raël reprit son expression de sécurité. Elle ne doutait plus de son amant. Poëri lui raconta qu'une jeune fille se donnant le nom d'Aura s'était présentée chez lui en suppliante, qu'il l'avait accueillie comme on doit le faire de tout hôte, que le lendemain, elle manquait parmi les servantes et qu'il ne pouvait s'expliquer comment elle se retrouvait là. Il ajouta aussi que des émissaires de Pharaon cherchaient partout Tahoser, la fille du grand prêtre Pétamounoph,
disparut de son palais.
« Tu vois bien que j'avais raison, maîtresse, » dit Tamar d'un ton de triomphe. « Hora et Tahoser sont la même personne. »«
Cela est possible, » répondit Poëri. « Mais il y a ici plusieurs mystères que ma raison ne s'explique pas. D'abord, pourquoi Tahoser, si c'est elle, aurait-elle pris ce déguisement? Et ensuite, par quel prodige rencontrai-je ici cette jeune fille que j'ai laissée hier soir de l'autre côté du Nil et qui, certes, ne pouvait savoir où j'allais ?»«
Elle t'a suivie, sans doute, » dit Raël.
« Il n'y avait, j'en suis sûr, à cette heure, d'autres barques sur le fleuve que la mienne. »
C'est donc pour cela que ses cheveux ruisselaient et que sa robe était trempée. Elle aura traversé le Nil à la nage. En effet, il m'a semblé un instant entrevoir dans l'obscurité une tête humaine au-dessus de l'eau.
« C'était elle, la pauvre enfant, » dit Raël. « Son évanouissement et sa fatigue le prouvent, car, après ton départ, je l'ai relevée étendue sans connaissance en dehors de cette cabane. »
« Les choses doivent en effet s'être passées de la sorte, » dit le jeune homme. « Je vois bien les actions, mais je n'en comprends pas les motifs. »«
Je vais te les expliquer, » dit en souriant Raël, « quoique je ne sois qu'une pauvre ignorante et qu'on te compare pour la science à ces prêtres d'Égypte qui étudient nuit et jour au fond de sanctuaires chamarrés d'hiéroglyphes mystérieux dont eux seuls pénètrent les sens profonds. Mais quelquefois les hommes, si occupés de l'astronomie, de la musique et des nombres, ne devinent pas ce qui se passe dans le cœur des jeunes filles. Ils voient au ciel une étoile lointaine et ne remarquent pas un amour tout près d'eux. Hora, ou plutôt Tahoser, car c'est elle, a pris ce déguisement pour s'introduire dans ta maison, pour vivre près de toi. Jalouse, elle s'est glissée dans l'ombre derrière tes pas. Au risque d'être dévorée par les crocodiles du fleuve, elle a traversé le Nil. Arrivée ici, elle nous a épiés par quelques fentes de la muraille et n'a pu supporter le spectacle de notre bonheur. Elle t'aime parce que tu es très beau, très fort et très doux. Mais cela m'est bien égal, puisque tu ne l'aimes pas. As-tu compris maintenant ?
Une légère rougeur monta aux joues de Poëri. Il craignait que Raël ne fût irrité et ne parlât ainsi pour lui tendre un piège. Mais le regard de Raël, lumineux et pur, ne trahissait aucune arrière-pensée. Elle n'en voulait pas à Tahoser d'aimer celui qu'elle aimait elle-même.
À travers les fantômes de ses rêves, Tahoser aperçut Poëri debout auprès d'elle. Une joie extatique se peignit sur sa figure et, se soulevant à demi, elle saisit la main pendante du jeune homme pour la porter à ses lèvres.
« Ses lèvres brûlent, » dit Poëri en retirant sa main.
« D'amour autant que de fièvre, » fit Raël, « mais elle est vraiment malade. Si Tamar allait chercher Mosché, il est plus savant que les sages et les devins de Pharaon, dont il imite tous les prodiges. Il connaît la vertu des plantes et sait en composer des breuvages qui ressusciteraient les morts. Il guérira Tahoser, car je ne suis pas assez cruelle pour vouloir qu'elle perde la vie. » Tamar partit en rechignant, et bientôt elle revint, suivie d'un vieillard de haute stature, dont l'aspect majestueux commandait le respect. Une immense barbe blanche descendait à flots sur sa poitrine, et de chaque côté de son front, deux protubérances énormes accrochaient et retenaient la lumière. On eût dit deux cornes ou deux rayons. Sous ses épais sourcils, ses yeux brillaient comme des flammes. Il avait l'air, malgré ses habits simples, d'un prophète ou d'un dieu. Mis au fait par Poëri, il s'assit près de la couche de Tahoser et dit en étendant les mains sur elle, « Au nom de celui qui peut tout et près de qui les autres dieux ne sont que des idoles et des démons, quoique tu n'appartiennes pas à la race élue du Seigneur, jeune fille, sois guérie. »
Fin du chapitre 11, enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en juin 2011.
Chapitre 12 du roman de la momie par Théophile Gautier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 12. Le grand vieillard se retira d'un pas lent et solennel, laissant comme une lueur après lui. Tahoser, surprise de se sentir abandonnée subitement par le mal, promenait ses yeux autour de la chambre, et bientôt, se drapant de l'étoffe dont la jeune Israélite l'avait couverte, elle glissa ses pieds à terre et s'assit au bord du lit. La fatigue et la fièvre avaient complètement disparu. Elle était fraîche comme après un long repos,
et sa beauté rayonnait dans toute sa pureté. Chassant de ses petites mains les masses tressées de sa coiffure derrière ses oreilles, elle dégagea sa figure illuminée d'amour, comme si elle eût voulu que Poëri pût y lire. Mais, voyant qu'il restait immobile près de Ra'hel, sans l'encourager d'un signe ou d'un regard, elle se leva lentement, s'avança vers la jeune Israélite et lui jeta éperdument les bras autour du cou. Elle resta ainsi, la tête cachée dans le sein de Ra'hel, lui mouillant en silence la poitrine de larmes tièdes. Quelquefois un sanglot qu'elle ne pouvait réprimer la faisait convulsivement tressaillir et la secouait sur le cœur de sa rivale. Cet abandon entier, cette désolation franche, touchèrent Ra'hel. Tahoser s'avouait vaincue et implorait sa pitié par des supplications muettes faisant appel aux générosités de la femme. Ra'hel, émue, l'embrassa et lui dit « Sèche tes pleurs et ne te désole pas de la sorte. Tu aimes Poëri? Eh bien, aime-le. Je ne serai pas jalouse. » Yacoub, un patriarche de notre race, eut deux femmes. L'une s'appelait Ra'hel comme moi, et l'autre Lia. Yacoub préférait Ra'hel, et cependant Lia, qui n'avait pas ta beauté, vécut heureuse près de lui. Tahoser s'agenouilla aux pieds de Ra'hel et lui baisa la main. Ra'hel la releva et lui entoura amicalement le corps d'un de ses bras. C'était un groupe charmant que celui formé par ces deux femmes de races différentes dont elle résumait la beauté. Tahoser élégante, gracieuse et fine comme une enfant grandie trop vite. Ra'hel éclatante, forte et superbe dans sa maturité précoce. « Tahoser, dit Poëri, car c'est là ton nom, je pense, Tahoser, fille du grand prêtre Pétamounoph. » La jeune fille fit un signe d'acquiescement. « Comment se fait-il que toi, qui vis à Thèbes dans un riche palais entouré d'esclaves, et que les plus beaux parmi les Égyptiens désirent, tu aies choisi pour l'aimer le fils d'une race réduite en esclavage, un étranger qui ne partage pas ta croyance et dont une si grande distance te sépare ?» Ra'hel et Tahoser sourirent, et la fille du grand prêtre répondit « C'est précisément pour cela. » Quoique je sois en faveur auprès de Pharaon, intendant du domaine et portant des cornes dorées dans les fêtes de l'agriculture, je ne puis m'élever à toi. Aux yeux des Égyptiens, je ne suis qu'un esclave, et tu appartiens à la caste sacerdotale la plus haute, la plus vénérée. Si tu m'aimes, et je n'en puis douter, il faut descendre de ton rang. Ne m'étais-je déjà pas fait ta servante? Hora n'avait rien gardé de Tahoser, pas même les colliers d'émaux et les calasiris de gaze transparente. Aussi tu m'as trouvé laide. Il faut renoncer à ton pays et me suivre aux régions inconnues à travers le désert, où le soleil brûle, où le vent de feu souffle, où le sable mobile mêle et confond les chemins, où pas un arbre ne pousse, où ne sourd aucune fontaine, parmi les vallées d'égarement et de perdition, semées d'eau blanchie pour jalons de route. « J'irai, » dit tranquillement Tahoser. « Ce n'est pas assez, » continua Poëri. « Tes dieux ne sont pas les miens, tes dieux d'airain, de basalte et de granit que façonna la main de l'homme, monstrueuses idoles à tête d'épervier, de singes, d'ibis, de vaches, de chacals, de lions, qui prennent des masques de bêtes comme s'ils étaient gênés par la face humaine où brille le reflet de Jéhovah. Il est dit, tu n'adoreras ni la pierre, ni le bois, ni le métal. Au fond de ces temples énormes cimentés avec le sang des races opprimées, ricanent hideusement accroupis d'impurs démons qui usurpent les libations, les offrandes et les sacrifices. Un seul Dieu, infini, éternel, sans forme, sans couleur, suffit à remplir l'immensité des cieux que vous peuplez d'une multitude de fantômes. Notre Dieu nous a créés, et c'est vous qui créez vos dieux. » Quelque éprise que Tahoser fût de Poëri, ses paroles produisirent sur elle un étrange effet, et elle se recula, épouvantée. Fille d'un grand prêtre, elle était habituée à vénérer ces dieux que le jeune Hébreu blasphémait avec tant d'audace. Elle avait offert sur leurs autels des bouquets de lotus et brûlé des parfums devant leurs images impassibles. Étonnée et ravie, elle s'était promenée à travers leurs temples bariolés d'éclatantes peintures. Elle avait vu son père accomplir les rites mystérieux, Elle avait suivi les collèges de prêtres qui portaient la barille symbolique par les propylées énormes et les interminables dromos de sphinx, admiré non sans terreur les psychostasies où l'âme tremblante comparait devant Osiris armé du fouet et du pédum, et contemplé d'un œil rêveur les fresques représentant les figures emblématiques voyageant vers les régions occidentales. Elle ne pouvait renoncer ainsi à ses croyances. Elle se tut quelques minutes, hésitant entre la religion et l'amour. L'amour l'emporta, et elle dit « Tu m'expliqueras ton Dieu, et je tâcherai de le comprendre. »«
C'est bien, » dit Poëri, « tu seras ma femme. En attendant, reste ici, car le pharaon, sans doute amoureux de toi, te fait chercher par ses émissaires. Il ne te découvrira pas sous cet humble toit, et dans quelques jours nous serons hors de sa puissance. » Mais la nuit s'avance, il faut que je parte. »
Poëri s'éloigna, et les deux jeunes femmes, couchées l'une près de l'autre sur le petit lit, s'endormirent bientôt, se tenant par la main comme deux sœurs. Tamar, qui pendant la scène précédente s'était tenue blottie dans un coin de la chambre, comme une chauve-souris accrochée à un angle par les ongles de ses membranes, marmottant des paroles entrecoupées et contractant les rides de son front bas, déplia ses membres anguleux, se dressa sur ses pieds et, se penchant vers le lit, écouta la respiration des deux dormeuses. Lorsqu'à la régularité de leur souffle elle fut convaincue que leur sommeil était profond, elle se dirigea du côté de la porte, suspendant ses pas avec des précautions infinies. Arrivée dehors, elle s'élança d'un pas rapide dans la direction du Nil, secouant les chiens qui se suspendaient par les dents au bord de sa tunique, ou les traînant quelques pas dans la poussière, jusqu'à ce qu'ils lâchassent prise. D'autres fois, elle les regardait avec des yeux si flamboyants qu'ils reculaient en poussant des abois plaintifs et la laissaient passer. Elle eut bientôt franchi les espaces dangereux et déserts qu'habitent la nuit les membres de l'association des voleurs et pénétra dans les quartiers opulents de Thèbes. Trois ou quatre rues, bordées de hauts édifices dont les ombres se projetaient par grands angles, la conduisirent à l'enceinte du palais qui était le but de sa course. Il s'agissait d'y entrer, et la chose n'était pas facile à cette heure de nuit pour une vieille servante israélite, les pieds blancs de poussière et vêtue de haillons douteux. Elle se présenta au pylône principal, devant lequel veillent accroupis 50 cryosphinx rangés sur deux lignes, comme des monstres prêts à broyer entre leurs mâchoires de granit les imprudents qui voudraient forcer le passage. Les sentinelles l'arrêtèrent et la frappèrent rudement du bois de leurs javelines, puis ils lui demandèrent ce qu'elle voulait.
« Je veux voir Pharaon, » répondit la vieille en se frottant le dos.
« Très bien, c'est cela. Dérangé, pour cette sorcière, Pharaon, favori de Phré, préféré d'Amon-Ra, conculcateur des peuples ?» firent les soldats en se tenant les côtes de rire. Tamar répéta opiniâtrement « Je veux voir Pharaon tout de suite. »
« Le moment est bien choisi. Pharaon a tué tantôt à coups de sceptre trois messagers. Il se tient sur sa terrasse, immobile et sinistre comme Typhon, dieu du mal, » dit un soldat, daignant descendre à quelque explication.
La servante de Raël essaya de forcer la consigne. Les javelines lui tombèrent en cadence sur la tête comme des marteaux sur l'enclume. Elle se mit à pousser des cris d'orfraie plumée vive. Au tumulte, un Oëris accourut. Les soldats cessèrent de battre Tamar.
« Que prétend cette femme ?» dit l'Oëris. « Et pourquoi la frappez-vous de la sorte ?»«
Je veux voir Pharaon !»
s'écria Tamar, se traînant aux genoux de l'officier.
« Impossible, » répondit l'Oëris. « Quand même, au lieu d'être une misérable, tu serais un des plus hauts personnages du royaume.
« Je sais où est Tahoser, » lui chuchota la vieille, accentuant chaque syllabe.
L'Oëris, à ces mots, prit Tamar par la main, lui fit franchir le premier pylône et la conduisit, à travers l'allée de colonnes et la salle hypostyle, dans la seconde cour, où s'élève le sanctuaire de granit, précédé de deux colonnes à chapiteaux de lotus. Là, appelant Timopte, il lui remit Tamar. Timopte conduisit la servante sur la terrasse où se tenait Pharaon, morne et silencieux. «
Ne lui parle que hors de portée de son sceptre, recommanda Timopht à l'Israélite. Dès qu'elle aperçut le roi dans l'ombre, Tamar se laissa tomber la face contre les dalles à côté des corps qu'on n'avait pas relevés, et bientôt, se redressant, elle dit d'une voix assurée « Ô Pharaon, ne me tue pas, j'apporte une bonne nouvelle. » « Parle sans crainte, » répondit le roi, dont la fureur était calmée.
« Cette Tahoser que tes messagers ont cherchée aux quatre points du vent, je connais sa retraite. »
Au nom de Tahoser, Pharaon se leva tout d'une pièce et fit quelques pas vers Tamar, toujours agenouillée. « Si tu dis vrai, tu peux prendre dans mes chambres de granit tout ce que tu seras capable de soulever d'or et de choses précieuses. »«
Je la livrerai, sois tranquille, » dit la vieille avec un rire strident.
Quel motif avait poussé Tamar à dénoncer au pharaon la retraite où se cachait la fille du prêtre? Elle voulait ainsi empêcher une union qui lui déplaisait. Elle avait pour la race d'Égypte une haine aveugle, farouche, irraisonnée, presque bestiale, et l'idée de briser le cœur de Tahoser lui souriait. Une fois aux mains de Pharaon, la rivale de Ra'hel ne pouvait plus s'échapper. Les murs de granit du palais sauraient garder leur proie.
« Où est-elle ? » dit Pharaon. « Désigne l'endroit, je veux la voir sur le champ. » « Majesté, moi seul peux te guider. Je connais les détours de ces quartiers immondes où le plus humble de tes serviteurs dédaignerait de mettre le pied. Tahoser est là, dans une cabane de terre mêlée de paille, que rien ne distingue des huttes qui l'avoisinent, parmi les tas de briques que les Hébreux moulent pour toi, hors des habitations régulières de la ville.
« Bien, je me fie à toi. Timopht, fais atteler un char. » Timopht disparut. Bientôt, l'on entendit rouler les roues sur les dalles de la cour et piétiner les chevaux que les écuyers attachaient aux joues. Pharaon descendit, suivi de Tamar. Il s'élança sur le char, prit les rênes et, comme Tamar hésitait, « Allons, monte, » dit-il. Il clappa de la langue et les chevaux partirent. Les échos, réveillés, répétèrent le bruit des roues qui retentirent comme un tonnerre sourd au milieu du silence nocturne par les salles vastes et profondes. Cette vieille hideuse s'accrochant de ses doigts osseux au rebord du char, à côté de ce pharaon de stature colossale et semblable à un dieu, formait un étrange spectacle qui, heureusement, n'avait pour témoin que les étoiles scintillant dans le bleu noir du ciel. Placée ainsi, elle ressemblait à un de ces mauvais génies à configuration monstrueuse qui accompagnent les âmes coupables aux enfers. Les passions rapprochent ceux qui ne devraient jamais se rencontrer. « Est-ce par ici ? » dit le pharaon à la servante, au bout d'une rue qui se bifurquait.
« Oui, » répondit Tamar en étendant sa main sèche dans la bonne direction.
Les chevaux, excités par le fouet, se précipitaient en avant et le char sautait sur les pierres avec un bruit d'airain. Pendant ce temps, Tahoser dormait près de Ra'hel. Un rêve bizarre hantait son sommeil. Il lui semblait être dans un temple d'une grandeur immense. D'énormes colonnes, d'une hauteur prodigieuse, soutenaient un plafond bleu constellé d'étoiles comme le ciel. D'innombrables lignes d'hiéroglyphes montaient et descendaient le long des murailles, entre les panneaux de fresques symboliques bariolés de couleurs lumineuses. Tous les dieux de l'Égypte s'étaient donné rendez-vous dans ce sanctuaire universel, non pas en effigie d'airain, de basalte ou de porphyre, mais sous leur forme vivante. Au premier rang étaient assis les dieux supercélestes, Knef, Buteau, Ptah, Parmenès, Hathor, Phré, Isis. Ensuite venaient 12 dieux célestes, 6 dieux mâles, Rempa, Piséus, Ertosi, Pi Hermès, Imoutès, et 6 dieux femelles, la lune, l'éther, le feu, l'air, l'eau, la terre. Derrière eux fourmillaient, foule indistincte et vague, les 365 décans ou démons familiers de chaque jour. Ensuite apparaissaient les divinités terrestres, le second Osiris, Haroéri, Typhon, la deuxième Isis, Neptis, Anubis à la tête de chien, Thoth, Busiris, Bubastis, le grand Sérapis. Au-delà, dans l'ombre, s'ébauchaient les idoles à formes animales, bœufs, crocodiles, ibis, hippopotame. Au milieu du temple, dans son cartonnage ouvert, gisait le grand prêtre Pétamounoff, qui, la face démaillotée, regardait d'un air ironique cette assemblée étrange et monstrueuse. Il était mort, mais il vivait et parlait, comme cela arrive souvent en rêve, et il disait à sa fille « Interroge-les et demande-leur s'ils sont des dieux. » Et Tahoser allait posant à chacun la question, et tous répondaient « Nous ne sommes que des nombres, des lois, des forces, des attributs, des effluves et des pensées de Dieu. Mais aucun de nous n'est le vrai Dieu. » Et Poëri paraissait sur le seuil du temple et, prenant Tahoser par la main, la conduisait vers une lumière si vive qu'auprès le soleil eût paru noir et au milieu de laquelle scintillaient dans un triangle des mots inconnus. Cependant le char de Pharaon volait à travers les obstacles et les essieux rayaient les murs aux passages étroits. « Modère tes chevaux, » dit Tamar au Pharaon. « Le fracas des roues dans cette solitude et ce silence pourrait donner l'éveil à la fugitive, et elle t'échapperait encore. » Pharaon, trouvant le conseil judicieux, ralentit, malgré son impatience, l'allure impétueuse de son attelage. « C'est là, » dit Tamar, « j'ai laissé la porte ouverte. Entre, et je garderai les chevaux. » Le roi descendit du char et, baissant la tête, pénétra dans la cabane. La lampe brûlait encore et versait sa clarté mourante sur le groupe des deux jeunes filles endormies. Pharaon prit Tahoser dans ses bras robustes et se dirigea vers la porte de la hutte. Quand la fille du prêtre s'éveilla et qu'elle vit flamboyer près de son visage la face étincelante du Pharaon, elle crut d'abord que c'était une fantasmagorie de son rêve transformé. Mais l'air de la nuit qui la vint frapper au visage lui rendit bientôt le sentiment de la réalité. Folle d'épouvante, elle voulut crier, appeler au secours. Sa voix ne put jaillir de son gosier. Qui, d'ailleurs, lui eût porté aide contre Pharaon? D'un bond, le roi sauta sur son char, passa les rênes autour de ses reins, et, serrant sur son cœur Tahoser demi-morte, il lança ses coursiers au galop vers le palais du Nord. Tamar se glissa comme un reptile dans la cabane, s'accroupit à sa place accoutumée et contempla avec un regard presque aussi tendre que celui d'une mère sa chère Raël qui dormait toujours. Fin du chapitre 12, enregistré par Nadine Kurt-Boulet à Copenhague en juin 2011.
Question for you. Would you rather pay $150 a month or $15 a month to work out with the same high-quality gym equipment? At Planet Fitness, you can get top-tier equipment for $15 a month. Plus, save $28 or more when you join now during our Strong Choice Sale. Our weights weigh the same, you just don't pay the same. Enjoy free fitness training and 24-hour access at most clubs, all in the judgment-free zone. Join Planet Fitness today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month, cancel anytime. Deal ends October 10th. See club for details.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.